Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est l'été, dans les matinées du mois d'août, sur France Culture. Françoise Malétra a passé la parole à Sylvie Andreux, qui la passera, bien vite, à Léo Mallet et Alain de Mouzon, désignés tous deux comme écrivains du 13e arrondissement de Paris. Autour d'eux, des flâneurs, des promeneurs, des habitants du 13e arrondissement en question, mais l'arrondissement est vaste. Habitants qui tenteront, avec plus ou moins de succès, de réagir aux propos tenus dans le car studio de France Culture, car studio qui poursuit ses vacances dans la capitale jour après jour. L'émission était en direct ce 24 août 1982 à quelques centaines de mètres du pont de Tolbiac. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
Salut Léo Mallet. Bonjour Françoise, en effet l'équipe des matinées du mois d'août vous attend, nombreux autour du car de France Culture qui est installé ainsi que vous venez de l'annoncer jusqu'à 11h dans le quartier de la Butte aux Cailles et pour être tout à fait précise, place Paul Verlaine. Ambiance de village dans un quartier éventré, rénové, méconnaissable pour certains et magique pour d'autres. Maisons individuelles et jardinées à l'ombre des tours et des centres commerciaux, l'image est facile, me direz-vous, mais elle est vraie. Essayons en tout cas d'éviter les clichés, mais il faut reconnaître que nous sommes ici, eh bien, coincés entre les esprits épris d'un passé révolu, et là je pense à Léo Mallet, et les promoteurs d'un autre mode de vie qui ne s'embarrasse pas toujours des cases individuelles. Je ne retournerai pas dans le 13e arrondissement parce que c'est tout Paris qui est atteint et que je m'y sais encore plus malheureux que lorsque j'y traînais la savate. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Léo Mallet qui est notre invité. Et je ne voudrais pas vous faire mentir, Léo Mallet, mais dans ce quartier, eh bien, vous êtes revenu au moins deux fois. La première, pour écrire la préface du dernier roman d'Alain de Mouzon, qui est à vos côtés, qui est à nos côtés. Le livre s'intitule « Le château des rentiers » et il est édité chez Flammarion. Et la seconde fois, eh bien, c'est ce matin, pour venir jusqu'à nous, à la Butte aux Cailles. Et je vous cite encore, pour parler d'un quartier qui est d'un très élevés, degrés cafardeux, qui vous collerait à la peau comme la glu aux pattes de l'oiseau. Alors, il va falloir s'expliquer ce matin jusqu'à 11h, ce quartier, ce 13e arrondissement. Vous avez sûrement une excuse parce que vous avez réponse à tout et vous allez prétendre eh bien, qu'on vous y traîne de force.
Ben, j'ai réponse à tout, non. Mais enfin, j'ai connu ce quartier, j'avais 16 ans. Comme je le dis, j'y ai traîné la savate. Et j'ai conservé une petite affection pour ce quartier qui a été le premier à m'accueillir quand je suis arrivé à Paris.
Mais ça n'est pas le seul quartier de Paris où vous ayez traîné la savate.
Parce que... Non, ça, je dois dire que j'ai traîné la savate dans tous les arrondissements de Paris. Sauf le 16e peut-être.
Sauf le 16e, sauf les beaux quartiers, enfin les quartiers urbains. Oui.
Ben, c'est-à-dire, je marquais tellement mal qu'il était pas, il était aventureux. Il était aventureux de m'aventurer dans les beaux quartiers.
Et là, vos heures de prédilection pour vous promener, c'est un peu la nuit, là, vous me disiez.
C'était la nuit, car n'oublions pas, nous sommes en train de parler de choses qui se sont passées il y a très longtemps, je ne dirais pas. Depuis quand mais...
Du temps d'une folle jeunesse et d'une jeunesse pauvre.
Folle jeunesse, non. Une jeunesse pauvre, oui. C'est-à-dire une jeunesse pauvre. Ensuite, j'ai été un enfant pauvre, j'ai été un adolescent pauvre, j'ai été un adulte pauvre, Et ensuite, j'ai été un vieillard pauvre. Hein.
Alors, une chose m'étonne, on pense à vous lorsque l'on fait une émission sur le 13e arrondissement. Or, il se trouve qu'un peu à votre corps défendant, vous êtes devenu le défenseur et le chantre de ce quartier. Et pourtant, ce quartier, eh bien, mon Dieu, vous l'avez quitté il y a fort longtemps. Vous l'avez d'ailleurs fort peu habité.
Ah ben oui, quelques mois seulement.
Et vous en gardez un mauvais souvenir.
Et oui, j'en garde plutôt un mauvais souvenir. Maintenant, j'en garde un meilleur souvenir. Mais vous avez raison. Moi, j'ai écrit un bouquin qui était destiné à combattre le 13e arrondissement. Et il y a eu ce malentendu, c'est que dans cette attaque, certaines personnes ont cru voir une défense.
Vous nous rappelez le titre de ce livre ?
Ben, c'est Brouillard au Pont-de-Tolbiac.
Auquel vous faites allusion ?
Oui, Brouillard au Pont-de-Tolbiac.
C'est un beau titre.
Ah oui, je suis spécialiste des titres, moi d'ailleurs. J'ai beaucoup de... Sur des feuilles de papier, chez moi, il y a beaucoup de titres comme ça, mais il n'y a pas de roman derrière.
Alors, Brouillard sur...
Au pont
de Tolbiac, parce que vous y avez découvert une sorte de microclimat, ou est-ce que c'est une image de poète?
C'est une image de poète, plutôt, parce que vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas souvent de brouillard au pont de Tolbiac. Il y a surtout la fumée des trains qui passent en dessous, sous le premier pont de Tolbiac, car il y a deux ponts de Tolbiac. Il y a celui qui enjambe la voie ferrée, et puis alors il y a celui qui enjambe la Seine.
Alors, vous ne retournez jamais dans ce quartier du 13e arrondissement ?
Non, j'y suis... Écoutez,
j'ai... Une sorte de profession de foi de votre part.
Oui, mais j'ai... Bon, quand j'ai écrit Brouillard au Pont-de-Tolbiac en 1955 ou 56, je suis retourné dans le 13e où je n'avais pas mis les pieds depuis 1928 ou 29. Et pour me retremper dans l'atmosphère. À ce moment-là, d'ailleurs, le quartier n'avait pas du tout changé. Il était à peu près exactement comme je l'avais connu en 1926.
Vous l'avez retrouvé tel que vous l'aviez
laissé. Ah oui, oui. D'ailleurs, je me suis servi des paysages, le passage des hautes formes, des trucs comme ça. J'avais commencé à parler aussi de la rue du Gaz.
Oui.
Je perds un peu... Un peu le fil, parce qu'il est de bonne heure. Moi, je me lève très tôt, mais j'ai la gueule de bois rapide, alors.
Non, il semblerait qu'il y ait autour du quart comme un mouvement d'humeur de la part d'une dame handicapée qui est venue nous écouter et à laquelle nous proposons, je suis obligée de le dire, que nous sommes obligés de fermer les portes de notre quart à cause du bruit de la circulation. Nous avons choisi de faire ces émissions en direct du lieu parisien et bien sûr, il faut tenir compte de la circulation. Je vais demander à cette dame de s'approcher. Eh bien, ma foi, d'un retour d'antenne qui est à la disposition des auditeurs et des promeneurs de ce quartier, qui d'ailleurs fort nombreux sont venus, Léo Mallet, vous écouter.
Bon,
Et se mettre autour de notre petit quart. Où en étions-nous du fil de ce 13e?
Nous en étions au fait que... j'ai perdu le fil.
À votre tour.
Oui. Non. Quand en 1955 ou 56, lorsque j'ai voulu écrire Brouillard au Pont-de-Tolbiac, j'avais une idée directrice du roman, mais enfin, il fallait que je revoie les décors. Chaque fois que je publie un bouquin, d'ailleurs, j'allais me retremper dans l'atmosphère du quartier. Et là, ça n'avait pas changé. Puis alors, je suis retourné. Alors après, j'ai plus mis les pieds. Mais lorsque mon ami Jean-Claude Muet, le libraire de la librairie de la Butte aux Cailles a voulu rééditer certains de mes bouquins.
Comme par hasard, la Butte aux Cailles.
Oui. Ah bah oui.
Le monde est petit,
et ce qui
direz-vous ce matin.
Ce qui l'intéressait, c'était le Brouillard au Pont-de-Tolbiac. Alors je suis retourné dans le 13e, j'ai remis mes pas dans ceux de Belita Morales, et j'ai constaté des changements qui m'ont été pénibles, je l'ai dit dans la préface. Et puis alors ensuite, j'étais tranquillement installé chez moi, à ne rien faire, lorsqu'Alain de Mouzon m'a demandé une préface pour un de ses bouquins. Et alors il a secoué ma paresse, et alors je suis retourné dans ce 13e arrondissement où je ne voulais jamais plus refoutre les pieds, je suis retourné avec de Mouzon.
Alors de Mouzon, beau succès de votre part, parce que d'une part Léo Mallet est revenu dans ce quartier pour vous, et puis vous avez réussi à le faire réécrire, ce qu'il ne fait plus depuis des années. Il prétend qu'il ne sait plus, il prétend aussi que la société actuelle, enfin la société dans laquelle il vit, ne l'intéresse plus. Alors comment est-ce que vous vous y êtes pris ?
Je l'ai tabassé assez fort, et plusieurs fois de suite.
Vous l'avez frappé.
Ah mais il m'a pris comme ça à chaud, et moi je ne sais pas dire non.
Alors, et vous êtes sensible au coup ?
J'ai dit oui, puis après avoir raccroché le téléphone, j'ai dit ça y est, tu t'es encore embarqué dans une histoire à la noix.
Alors pourquoi est-ce qu'un jeune romancier, enfin un romancier naturellement beaucoup plus jeune que Léo Mallet, a eu envie d'être préfacé par un homme comme Léo Mallet ? Qu'est-ce qui vous rapproche ? Est-ce qu'il y a une famille qui fait que vous êtes un peu de la même famille ?
Oui, d'abord on se connaît Enfin, moi, je connais Léo depuis que j'ai commencé à écrire du roman qu'il est convenu d'appeler policier. On s'entend assez bien. Je vois que les gens qui font du polar, comme on dit maintenant, se connaissent, se rencontrent assez volontiers, ont des activités communes autour du Festival de Reims, par exemple. Donc tout ça développe un petit peu une sympathie qu'on n'a pas avec tout le monde. D'ailleurs, comme ailleurs, on se fait des ennemis. Mais on se fait aussi des amis. Bon, bah, Léo est un ami depuis quelques années. Et, ça m'a... D'ailleurs, c'est très curieux. Quand j'ai écrit ce livre, moi, je l'ai écrit parce que j'habite le 13e, contrairement à Léo. Et que j'avais envie de parler du quartier autour de moi. Une petite partie, d'ailleurs, du 13e. Toute petite partie, à 150 mètres autour de chez moi.
Où est votre 13e à vous ?
Moi, c'est complètement à l'autre versant d'ici. En fait, c'est vraiment un autre territoire. C'est au-delà de la colline. Il faut redescendre vers la porte d'Ivry, entre la rue Nationale et la rue du Château des Rentiers, qui donne son titre au livre, d'ailleurs. J'ai écrit ce bouquin et j'ai pas vraiment pensé à Léo. Enfin, j'y pensais comme ça parce que je disais, tiens, c'est marrant. Léo a écrit Brouillard au pont de Tolbiac. Il apparaît du 13e, d'ailleurs, dans d'autres bouquins. Il n'y a pas que Brouillard au pont de Tolbiac. Et... Bon, ça va être un petit peu la vision d'un nouveau sur le 13e, après qu'on ait eu la vision d'un ancien. Encore que Léo, quand il a fait le 13e, n'était pas à ce moment-là un ancien. Il n'a jamais fait un livre rétro. Le livre apparaît maintenant comme quelque chose d'un petit peu passéiste.
Mais il a le mérite d'avoir écrit il y a 22
ans. Il a été écrit
il y a déjà 22 ans. Oui. Ouais. Ce qui ne nous rajeunit pas.
Ah non, cher ami, non, pas du tout.
Alors l'idée de la préface est venue après. Très curieusement, je me suis dit, mais... C'est arrivé à un moment comme une évidence un peu stupide, parce que je n'avais pas pensé du tout. Je dis, mais dans le fond, tiens, pourquoi je ne demanderais pas à Léo de me faire quelque chose ?
Mais parce que le 13e arrondissement aussi.
Oh oui, bien sûr, je ne pense pas que j'en aurais eu l'idée pour autre chose. Je veux dire, bon, en général, vous savez, on fait préfacer un bouquin quand c'est son premier livre, par quelqu'un qui est très célèbre. On a besoin de se faire un peu la courte échelle. Bon, moi, c'est mon 13e livre. A priori, je n'avais pas besoin d'être préfacé par quelqu'un d'aussi célèbre que Léo. C'était le 13e qui faisait la liaison entre lui et moi.
Alors, la préface est d'ailleurs fort intéressante. Enfin, le roman est très beau et je le recommande à la lecture de ceux qui nous écoutent. Mais la préface est intéressante parce qu'elle nous engage à nous jeter sur la lecture du roman de Mouzon, mais surtout à ne plus jamais revenir dans le 13e arrondissement.
Oui.
Hein ? Alors, on lit le livre... Mais on ne sort pas
de
chez soi.
À propos de la préface, il faut que je dise quelque chose. Bon, elle vous incite à lire le roman, c'est pour ça que c'est fait. Mais comme je ne savais pas quoi écrire, et comme de toute façon je suis là devant votre micro, je ne sais pas quoi dire.
Oui, vous ne savez pas quoi dire, mais vous êtes content que de Mouzon soit là parce que vous reposez pendant qu'il parle.
Mais évidemment, je ne pouvais pas tenir une heure tout seul comme ça, c'est une trop grande distance. Oui, alors finalement, j'ai parlé de moi. Moi, je ne sais faire qu'une chose. Vanité à part, je ne sais exprimer que les sentiments que je ressens, des choses comme ça.
Eh bien, vous allez vous taire maintenant, Léo Malo.
Ah, ben tant mieux.
Et écoutez
tout le monde.
Et écoutez un enregistrement que nous avons effectué parce que rien n'est plus tentant que de remettre ses pas dans les pas d'un auteur pour y retrouver l'atmosphère d'un roman et les personnages d'une époque. Alors, sur le pont de Tolbiac, où nous nous sommes rendus, eh bien, nous avons cherché, devinez qui, Nestor Burma, Abel Benoît et Belita Morales. En fait, l'endroit était désert, assez sinistre et peuplé de figures peu accueillantes. Mais le pont est toujours à sa place, rassurez-vous, et un homme, sur un petit mur, au soleil, a bien voulu nous parler. Et 22 ans après le Haut-Malais, il raconte cette zone du 13e arrondissement qu'aucun guide ne recommande aux touristes ou aux femmes seules. Cette faune qu'il décrit, est-ce toujours le petit peuple du 13e arrondissement de le Haut-Malais ? Eh bien, nous le serons un peu plus tard. Une chose est sûre, c'est que notre interlocuteur n'aime pas le pont de Tolbiac.
Moi, j'aime pas beaucoup ce quartier, vous savez, je vois bien m'en échapper, je vous assure que je m'en occupe même.
Et pourquoi vous n'aimez pas ?
Oh ben c'est un peu trop agité, il y a des éléments un peu trop disparates. Oui.
À ce point-là ?
Ah oui, alors les mélanges des races, vous savez, je ne suis pas sectaire, mais le mélange ça vaut rien. Les gens ne s'entendent pas. Alors ils se tapent dessus, etc. C'est affreux. Affreux. C'est piteux même. Ah, c'est même tragique.
Et on n'en parle pas beaucoup pourtant ?
Bah oui, vous savez, on parle toujours de ce qui se passe au loin. Oui, mais ce qui se passe à côté de chez soi, les gens ne le voient pas en général.
Et vous pensez honnêtement qu'il y a plus d'agressions dans ce quartier qu'ailleurs ?
Oui, je ne sais pas exactement s'il y en a plus, mais il y en a pas mal. Et il y a quantité de gens, il y a quantité de gars, preuve à l'appui, qui sont complètement déboussolés par ici, complètement agités, des gars à la rue, quoi. Il y en a quantité, des vagabonds, des gars à bout de ressources, des gars agités, des déprimés, des sous-développés, etc. Alors, il y a la quantité, une majorité énorme. Il y a des milliers qui traînent les rues, là. Je suis là depuis une demi-heure. J'en ai vu passer 5 ou 6 gars dans un état lamentable. Et dans d'autres quartiers, il y en a un peu aussi. Mais c'est la première fois que j'habite dans ce quartier. Eh bien, ici, on accumule les faits divers, hein, dont on ne parle pas dans la presse. S'il y a une attaque ou deux, ben, 2 ou 3 ou 4, tant que, comme disent les policiers, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Les attaques être dévalisées, je connais plusieurs personnes qui ont été dévalisées, attaquées, même en plein jour, ici dans le quartier. Ah oui, quantité de cas comme ça. C'est un quartier très, très, très agité. C'est pour ça que je veux le quitter, d'ailleurs. Mais c'est pas facile de le quitter quand on a des moyens très, très modestes, sinon humbles. Et je vous assure que c'est vraiment insupportable, hein, comme ambiance.
Vous vous sentez pas en sécurité ici?
Ah, mais absolument pas. Ah oui, absolument pas.
C'est-à-dire le soir, par exemple, vous sortez
seul? Oh, même, oui, je sors de temps en temps, mais je rentre rien, pas trop, trop tard. Mais c'est pas seulement le soir, c'est dans toute la journée. Oh oui, mais sans arrêt, tous les coins de rue, les gens, on les harponnait à tous les coins de rue. Quantité de gars qui mendigotent, ils se voient de mendigoter, et s'ils sont à deux, ils sont prêts à vous attaquer et tout. Et ils exigent, hein. Ils exigent qu'on leur donne quelque chose, vous comprenez? Ah oui.
Ça vous est arrivé à vous?
Ah oui, oh, des dizaines de fois, des dizaines de fois. Ah oui, restez là, installez seul, enfin surtout vous, une femme seule, là, pendant une demi-heure, vous allez voir. Il n'y en a pas 4 ou 5 qui vont se présenter, qui vont vous dire, donnez-moi 2 francs, j'ai pas mangé, donnez-moi 10 francs, donnez-moi... Ah oui, oui, ça c'est sûr. Alors il y en a 1 ou 2 qui sont liés, puis le troisième, il va devenir agressif.
Ah, ouais. Ah, c'est vraiment un secteur de désaccès.
Oui, ah oui, il y a plein de centres de refuge de malheureux par ici. Il y en a au moins 4, vous ne connaissez pas? Oh, il y a plusieurs centres de la ville de Paris, et puis de l'armée du salut. Et il y en a 50% des gars qui sont là-dedans sont des malades mentaux, je suis sûr. C'est les malades, j'ai discuté avec beaucoup, avec plusieurs d'entre eux. J'ai bien senti dans la conversation, c'est les agités, les gars qui sont difficilement récupérables, quoi. Il leur faudrait un asile, il faudrait qu'ils soient dorlotés, soignés, vous voyez ce que je veux dire.
Qu'on s'occupe d'eux.
Qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils sont agités. Entre eux, ils sont rassemblés entre agités. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Il faudrait des gens calmes autour d'eux. Alors on les rassemble dans des centres où une rencontre que l'autre agitée. Alors ça, la colère monte. Ils ont tous des problèmes, puis en général, il y en a beaucoup d'entre eux qui boivent, vous comprenez? Pas tous, mais la grande majorité d'entre eux boivent. Ils ont 4 sous, c'est pour boire. Alors ça les rend encore plus agités.
C'est pour la radio? C'est pour la télévision, hein?
Non, pour la radio, mais parce que je fais une émission avec l'auteur de la bande dessinée qui a connu le 13e arrondissement il y a 40 ou 50 ans.
Oh, bah s'il revenait aujourd'hui, non.
Et qui a situé son action, si vous voulez, au pont de Tolbiac. Ah, bon. Alors je voulais savoir si ce pont de Tolbiac, de votre point de vue à vous, était un endroit qui pouvait inspirer comme ça les gens qui avaient envie d'écrire.
Bah non, j'avoue que je me sens aussi, c'est contagieux, je me sens aussi déboussolé, moi. Alors je n'ai qu'une hâte quand je sors de l'endroit où je suis campé, là, c'est de fuir et d'aller dans un autre quartier. Ah oui, de disparaître, je ne veux pas. Je ne reste pas.
Et vous pensez que si Léo Mallet revenait sur les lieux du pont de Tolbiac?
Oui,
et
puis qu'il se donne la peine, il
ne reconnaîtrait pas grand-chose?
Non, 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 surtout du point de vue ambiance. Il n'a qu'à aller dans 2 ou 3 bistrots du coin, puis faire un stationnement pendant une demi-heure, il verra un peu. Une fois que les gars ont commencé à boire, ils verront un peu le genre de conversation qu'ils ont entre eux, quoi. Bon, ouais. Oh non, c'est un problème national. Ah ouais. Parce qu'on ne fait rien pour ces gars-là. J'ai discuté avec un dernièrement, il m'a raconté, il est en traitement. Alors il a dû aller, il ne me l'a pas dit, mais il peut sortir de Sainte-Anne, ça ne m'étonnerait pas, ou quelque chose comme ça. Et alors il se balade avec des pilules sur lui, il est obligé de pour calmer ses nerfs, non, mais seulement pour arranger tout ça, il boit, il prend des pilules, il reboit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est infernal. Ce sont des gars qui ne s'appartiennent pas, qui n'appartiennent plus. Irrécupérables. Et il y en a des milliers là autour de vous. Ah oui, il y a plusieurs centres. Il y a un centre de l'armée du salut un peu plus bas, là, à 150 mètres. Là. Eh bien, il y a 400 pensionnaires. Sur 400 pensionnaires, je suis sûr qu'il y en a 200 dans le cas et du ressort de la psychiatrie. Ah oui, des malheureux, quoi. Alors, ils ont des petites ressources très modestes, quoi. Il y en a qui touchent 50-200 000 francs par mois, d'autres beaucoup moins. Ils ont des secours de la mairie de 20-30 000 francs par semaine, c'est tout. Ils sont pris en charge comme ça. Alors ils sont complètement paumés. Oh. Et je croyais pas, on entend dire ces choses-là, vous comprenez. Mais moi j'ai habité dans le quartier autrefois. On entend dire ce genre de mots, grosso modo, chacun ses problèmes, ses joies, ses satisfactions, puis ses problèmes. Alors, on dit, oh, c'est pas grave, mais c'est très grave. Ces gars-là, il y en a peut-être beaucoup parmi eux qui font les agressions le soir. J'en vois qui traînent le soir, moi je rentre rarement en retard. Si on rentre à 10, 11 heures du soir, je les reconnais, j'en vois des gars, à peu près tous les mêmes.
Et pourquoi ils habitent ce quartier plutôt qu'un autre?
Parce qu'ils ont des centres qui les accueillent. Mais alors, ils ont des campements. Ils ont des campements. Tenez, ce centre-là, il est beaucoup plus propre. Là, ici, c'est un building de la Sonocotra. Alors, c'est des loyers un peu moins chers qu'ailleurs, mais enfin, c'est plus cher qu'ailleurs. Mais alors, dans les centres de la ville de Paris, rue du Château d'Irantier, il y en a un. Alors là, c'est quelque chose d'affreux. Là c'est les clochards, quoi. Alors, ils sont pris en charge. On leur donne une soupe, puis un bout de pain, puis un petit bout de viande le soir, puis un lit de camp, quoi. Alors, dans la journée, on les lâche, on les renvoie dehors.
Vous avez l'impression que toute la misère de Paris est concentrée dans ce quartier?
En grande partie, très grande partie. Ici, puis 19e et 20e, oui. Non, mais ici, il y a plusieurs centres. Je ne sais pas combien il y en a, j'en connais au moins 3 ou 4 des centres. Le pire, c'est le château des rentiers, c'est tout. Tous les résidus humains qui vont là-bas, il faut aller voir l'entrée le soir vers 5-6 heures. Il faut voir ça, il faudrait que tout le monde voit ça. Il faut se poster devant la porte et puis voir le rassemblement de tous ces gars en guenilles. Ils tassaient au moins 1000 gars là-dedans. Ils sont campés sur des lits superposés, ce qu'on appelle, vous comprenez. Alors ils se volent entre eux, ils se battent entre eux, ils se chicanent entre eux, ils s'égorgent entre eux, c'est affreux. Il faut voir l'entrée, il faut aller voir un jour, aller passer vers 5-6 heures, aller faire un tour tout au bout de la rue du Château des Rentiers. Ah oui, oui. Il faut voir ça, il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Je vous assure que ça vous fait mal, on a envie de se sauver, quoi. Alors, on ne sait pas, je ne connaissais pas, moi, ça, j'en avais entendu un petit peu parler autrefois, mais je ne connaissais pas. Mais quand j'ai découvert ça, le jour où je me suis planté devant un soir pour voir, c'est affreux, les petits pas. Plein de poux en haillons, etc. Ils sont des centaines, ils sont peut-être plus de 1000 concentrés là-dedans. Il y en a beaucoup qui font pas de mal, des vagabonds. Mais dans l'eau, à force de souffrir, il y en a qui se fâchent un jour, puis ils volent, puis quelquefois ils tuent. Ça arrive, vous comprenez? Ça leur monte à la tête un beau jour. Ils supportent leur misère pendant 1 heure, 2 ans, 10 ans, puis un beau jour, ils finissent par perdre la raison. Et il y a des crimes crapuleux qui sont commis par ces gars-là, quoi. Ces pauvres types, c'est des déchets humains, quoi.
Eh bien, c'était un témoignage tout à fait bouleversant que nous avons enregistré l'autre jour, et tout à fait par hasard, avec un homme qui est à la retraite et qui est un observateur un peu privilégié, je ne pense pas partial de ce quartier, mais j'ai envie quand même de vérifier avec, oui, deux connaisseurs,
Léo Mallet. D'abord, Alain de Mouzon pourra peut-être parler du château des Rentiers, du fameux asile, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Nicolas Flamel.
Ah oui, c'est ça. En plus, Nicolas Flamel, oui. Mais moi, je dois dire une chose. Il ressort de ce témoignage qu'il semble que cet arrondissement soit privilégié car il recueille des quantités d'épaves. Or, ça n'est pas tout à fait inexact. Bon, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé, je vous dis, par tomber dans le 13e arrondissement, le fameux foyer végétalien de la rue de Tolbiac et à la fois de la rue de Bobillot, parce que le restaurant végétalien était rue de Tolbiac, et puis on entrait pour accéder au dortoir qui était au premier étage, on passait par la rue Bobillot. Et alors là, il y avait des personnages vraiment très pauvres. Bon, c'était pas des clochards complets, mais enfin, ça n'en était pas très loin. En tout cas, ils étaient sur le chemin. Et j'avais toujours conservé de cet arrondissement une espèce de sentiment de tristesse, justement à cause de ces épaves qui semblent avoir fait de cet arrondissement un lieu de prédilection. Et en 1937 ou 38, j'ai connu à Montparnasse des camarades peintres qui étaient réfugiés de la guerre civile espagnole et qui m'ont dit quand je suis arrivé à Paris, je ne sais pas pourquoi, Mes pas m'ont conduit vers la place d'Italie. Il semblait que la place d'Italie était une sorte de lieu géométrique où tous les paumés du monde venaient se donner plus ou moins rendez-vous, comme une espèce de marche à l'étoile. On arrive à Paris, on n'a pas un sou, on n'a pas de papier, et vos pas instinctivement vous conduisent à la place d'Italie.
Donc, d'une certaine façon, vous reconnaissez tous ces êtres qui ont été décrits par notre témoin du Pont de Tagliac.
Oui, ça ne me surprend pas, ça ne me surprend pas du tout. C'est une faune particulière à cet arrondissement. Alors, j'en demande pardon aux types qui demeurent dans les galaxies et autres falaises, qui sont des jeunes cadres ou des trucs comme ça, des personnages de ce genre, qui gagnent 8, je sais pas... Un million de centimes ou deux par mois. Mais enfin, ils sont... D'ailleurs, c'est très intéressant. Ils sont tombés dans un endroit absolument diabolique. Et ces jeunes cadres, je les vois déjà menacés de chômage. Et je les vois déjà à Nicolas Flamel.
C'est-à-dire, vous leur prévoyez un sale avenir. Fréquenter les asiles de la rue du Château
voilà,
des Lantiers.
C'est ça. Oui. Non, d'ailleurs, ce serait très bien pour eux. Ça leur ferait prendre connaissance. Ça leur ferait faire connaissance avec la vie réelle.
La dure réalité. Alain de Mouzon, est-ce que vous êtes, vous aussi, d'accord avec cette vision un peu apocalyptique de ce 13e arrondissement que nous avons entendu? Parce que cette rue du Château des Rentiers, vous la connaissez mieux que personne ici.
Moi, j'habite à 25 mètres du foyer Nicolas Flamel et j'ai eu longtemps, enfin, c'est ma troisième adresse dans cette partie du 13e. Mais j'ai toujours été dans le périmètre 150-200 mètres autour de Nicolas Flamel et puis le refuge de l'Armée du Salut de la rue Cantagrel, qui est pas loin. J'ai eu des réactions émotionnelles qu'a ce monsieur. Alors, quand on a des réactions émotionnelles, on exagère un petit peu toujours avec ses émotions. J'ai vécu comme vivent tous les gens en voyant passer un peu ces clodos, ils pissent devant votre porte, de temps en temps effectivement ils sont ivres et ils dégueulent, police secours intervient parce qu'ils se sont bagarrés, bon il y a des petits faits divers comme ça, pas grand chose à bien y regarder, mais une émotion de quartier ça grossit toujours ce genre d'événement. Bon. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu envie justement d'aller au-delà de mon émotion et d'essayer de savoir, et de faire un peu plus que ce qu'a fait ce monsieur, d'ailleurs je souhaiterais qu'il le fasse, pas seulement aller regarder... à 5 heures, l'entrée du foyer Nicolas Flamel, mais de pousser la porte, d'aller demander humblement la direction, si on peut lui faire visiter, lui montrer, lui en parler, lui expliquer de quoi il s'agit. Et à partir de ce moment-là, il verra qu'il aura une vision complètement différente des choses. Nicolas Flamel sert 2000 repas par jour. Et sur ces 2000 repas, il y a peut-être 200 ou 300 simplement de ce qu'ils appellent eux-mêmes d'ailleurs des passagers. C'est-à-dire ces clochards, ces êtres à la dérive qui ne font que passer. La plupart des gens qui sont dans ces foyers sont des gens qui sont en réhabilitation par le travail, qui essayent de se réintégrer à la société, qui ont une chute à un moment ou à un autre. Entre autres, il faut savoir que les parcs et jardins de la ville de Paris en emploient plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers, que la plupart des jardiniers de Paris sont des gens qui viennent en partie Nicolas Flamel, et que ce ne sont pas du tout des êtres totalement à la dérive, il ne faut pas le croire. Non, je pense que bon, ce monsieur a un point de vue un petit peu excessif, peut-être. Bon, il voit des choses comme tout le monde.
Mais... Il pense aussi que la société, d'une certaine façon, ne les prend pas en charge comme elle devrait le faire.
Oui, écoutez, moi j'ai su dans cette enquête qu'il y avait sur Paris 20 000 lits d'accueil, ce qui est quand même assez considérable. Je vous ai dit que Nicolas Flamel servait 2 000 repas par jour, c'est également énorme. Les gens qui habitent à côté l'ignorent, ne le savent pas. Pour eux, c'est simplement un dépôt de clodo, mais c'est pas seulement ça.
Léo Mallet, est-ce que le quartier du Pont de Tolbiac est un quartier sûr et que vous recommandez aux femmes seules à partir de 10h du soir?
Moi, je ne recommande aucun quartier aux femmes seules. Non, mais il y a longtemps, je ne l'ai pas vu de nuit. Non, mais il ne faut pas exagérer.
Non, vous ne pensez pas qu'il y ait davantage d'agressions dans cette zone de Paris que dans un autre quartier?
Je ne sais pas, je ne connais pas assez le quartier maintenant, quoi. Je l'ai connu dans le temps, je ne le connais plus maintenant.
On va peut-être demander à un des techniciens là, du quart de France Culture de glisser un micro-baladeur à une jeune femme qui souhaiterait intervenir, ou plus exactement dont nous avons du mal à percevoir les propos. Non, ça n'est pas possible.
Ça va se mettre en route.
Ça va se mettre en route.
Non, je pense, oui, les gens réagissent parce que je crois que ce sont des habitants du 13e et qu'ils ne souhaitent pas donner une image criminogène de ce quartier.
Et aussi négative
voilà,
du quartier.
Effectivement, c'est totalement faux, je veux dire.
Je vais demander à monsieur...
C'est un des quartiers les plus calmes de Paris.
Je vais demander à monsieur qui a une caméra là à la main de s'approcher, de soulever la porte de notre car. de soulever la porte de notre car et de glisser un micro-baladeur. Alors, quel est celui qui voudrait intervenir et parler du quartier? Allez-y, monsieur.
Ben mon Dieu, je trouve que les propos sont un peu excessifs. Je suis dans le quartier depuis 1934.
Quel quartier du 13e? Enfin, quelle partie du 13e?
18 de la rue de la Butte aux Cailles.
Oui.
Alors, je suis jamais allé tellement me rendre compte à Nicolas Flamel comment ça se passait. Je sais qu'il y a des gens plus ou moins malheureux dans le quartier. Ce ne sont pas des gens riches. Mais mon Dieu, il se passe des choses comme dans tous les quartiers.
Oui, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir dans un autre sens peut-être? Non, c'est un...
C'est-à-dire que moi je suis né dans la porte d'Italie et disons que j'ai connu le fameux patronage de la rue Charles Fourier, la Mue de Pain, tout ça. Oui. Et moi-même je pratique un spectacle de la rue, je dis des textes, des poèmes de moi. Alors c'est pour ça que j'ai entendu hier l'émission là sur Belleville.
Et... Oui, et vous êtes venu nous rejoindre ici, pour assister à l'émission.
Oui, et puis éventuellement intervenir quoi, parce que je connais un peu le quartier, je vais autant des cerises là, au café là, je vais réciter des poèmes là.
Ah, c'est un joli café.
Oui,
J'habite juste au-dessus.
En tout cas, ce qui est sympathique, il faut bien reconnaître que dans ce quartier, un peu à part, eh bien, les auditeurs sont venus nombreux. Est-ce que nous...
Oui. Il ne faut pas donner une image du 13e uniquement branchée sur le pont de Tolbiac. Parce que les habitants du 13e sont un petit peu révoltés, indignés que cette seule image soit donnée.
Non, ça n'est pas la seule, madame. Soyons justes, et ça n'est pas la première émission que nous faisons sur le 13e arrondissement. Donc, il y a eu, et je crois hier, et les jours précédents, d'autres émissions sur le 13e arrondissement. Bon, eh bien, écoutez, je pense que nous allons passer à autre chose, peut-être abandonner ce pont de Tolbiac. Vous voyez que 22 ans après, vous voyez les polémiques, les mouvements d'humeur, les points de vue critiques contradictoires que ça suscite.
C'est un quartier à polémique, parce qu'au foyer végétalien, c'était des coupages de cheveux en quatre, comme ça. Voilà. Alors ça a déteint, quoi.
Vous êtes content de vous, Léo Mallet, 22 ans après, vous voyez un peu le brouhaha que tout ça provoque.
Oui, mais bien sûr.
Vous ne vous en doutiez pas, j'imagine.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous avez envie d'y retourner, vous, là, après l'émission, un petit tour au Pont de Tolbiac?
Ah, non.
Surtout
non,
pas.
Tout de suite après, je vais aux Champs-Élysées, moi.
C'est pas tout à fait sûr, je crois qu'il se vante.
Comment ? Ah ben non, pas du tout.
On va vous faire entendre un disque. Un disque que l'on a choisi pour vous. Et la chanson s'intitule La Cité Fleurie. Et elle est interprétée par un compositeur, par un auteur et interprète qui est André Laclique. Et c'est une chanson en fait qui a été composée par Henri-Jacques Dupuis, d'ailleurs, qui est un auteur, compositeur du quartier, et qui lui aussi assiste au déroulement de l'émission. Et je crois que d'une certaine façon, c'est un peu à vous qu'il dédie cette chanson.
Ah ben, je le remercie.
Alors on l'écoute ensemble.
Il existe encore un petit coin de nature, quelque part au milieu de Paris. Un vrai paradis caché dans la verdure, on l'appelle la cité fleurie. Atelier de peintres, de sculpteurs, d'artistes, ici chacun crée de la beauté. Mais prends garde petit amour, tu es sur la liste des prospecteurs de l'immobilier, car c'est le temps des promoteurs, des bâtisseurs sur tout terrain. Oui, c'est le temps des philanthropes qui en font trop pour leur prochain. On fait des tours dans tout Paris, qui sont les dits, oh quel sale tour. Mais faut penser, pour les notables, c'est plus rentable au mètre carré. Il existe encore un petit coin de nature en bordure du boulevard Arago. Oasis de paix blottie dans la verdure, il y a des roses et des oiseaux. Tout autour poussent des maisons de 20 étages, des bureaux et encore des bureaux. Mon pauvre Paris, tu changes de visage, celui d'aujourd'hui n'est plus très beau, car c'est le temps du capital, c'est capital de faire du fric. Oui, c'est le temps des acolytes, il faut bien vite faire du trafic, exproprier les habitants des lieux d'antan, tous les gêneurs, l'immobilier, c'est du gâteau, et les gogos iront ailleurs. Il existe encore un petit coin de nature, quelque part au milieu de Paris, un vrai paradis caché dans la verdure, on l'appelle la cité fleurie. Il faut la sauver de la folie ravageuse des compères de la maçonnerie. Laissez-nous goûter encore des heures heureuses dans notre belle cité fleurie. Laissez-nous goûter encore des heures heureuses dans notre belle cité fleurie.
Alors, je souhaite que dehors les esprits soient un peu calmés. Nous allons, dans un instant, et bien passer à un autre aspect.
C'est l'émeute.
Non, pas tout à fait, c'est pas tout à fait l'émeute. Mais est-ce que l'un et l'autre pouvaient répondre à une question d'ailleurs qui s'adresse aussi bien à Léo Malais qu'à Alain de Mouzon?
Non.
Non, pas la même. Non, vous voulez pas répondre?
Ah non, mais je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas quoi répondre d'avance.
Attendez la question.
Oui, bon, alors allez-y.
Pourquoi est-ce que ce quartier, à votre avis, comme ça inspire les auteurs? Non pas les criminels, bon, ça y est, c'est, le problème est réglé, mais pourquoi est-ce qu'il inspire les auteurs?
Ah, mais pourquoi?
Et les situations policières?
Pourquoi tel autre arrondissement inspire-t-il tel autre?
On n'a rien écrit sur beaucoup de rues de Paris, beaucoup de quartiers.
Ah, oh, mais si. Moi, personnellement, j'ai essayé d'écrire sur toutes les rues de Paris. Enfin, toutes les rues, tous les arrondissements.
Non, mais il y a un côté un peu magique, quand même, dans ce 13e arrondissement. Alain de Mouzon, vous avez vu, il ne veut pas répondre à la question.
De Mouzon, il demeure, et comme je l'ai dit dans la préface, il est sensible aux vieilles pierres qui subsistent encore dans cet arrondissement. Et en même temps, il est fasciné.
Il ne déteste pas le
renouveau. Alors, oui, ça l'a inspiré pour écrire son bouquin.
Il est plus à l'aise que vous, si je puis dire.
Ah oui, certainement, oui.
Oui, est-ce que vous voulez répondre à la question, Alain de Mouzon?
Oui, mais effectivement, c'est quand on parle 13e arrondissement, enfin à Paris, ça évoque toujours quelque chose pour les gens. Il y a beaucoup d'arrondissements où ce n'est pas le cas. Bon, le 13e, ça fait... Tout le monde a un souvenir, a quelque chose à raconter. Ça, je l'ai constaté avec Château des Rentiers. J'ai pris le nom de cette rue. Alors, c'est une rue, je dirais, sans intérêt. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de centre d'intérêt, restaurant, cinéma, quoi que ce soit. C'est une rue où a priori il n'y a rien. Et en fait, j'ai rencontré un grand nombre de gens qui disent « Ah, mais là, j'ai une fiancée qui habitait. » Vous savez qu'à cet endroit-là, il y avait ça. Et c'est des gens qui n'habitent plus dans le 13e ou qui n'ont pas habité, mais qui ont eu à connaître. Et tout ça, c'est parce que c'est un quartier, enfin, ou un arrondissement qui restait extrêmement vivant. Effectivement, bon, la chanson l'a évoqué, il y a eu tout ce problème de promotion, de rénovation, on a foutu en l'air. Les gens ont résisté, ils résistent encore plus fort qu'avant, je crois, et ça c'est bien, parce qu'ils se sont constitués une arme comme ça autour des racines du 13e. Et il y a un mélange d'ancien et de nouveau, c'est vrai. Moi j'en ai témoigné dans mon livre, bon, Léo lui reste sur l'ancien. Moi j'aime bien le mélange de l'ancien et nouveau. J'aime bien ce mélange de races dont parlait votre témoin tout à l'heure au pont de Tolbia, qui trouvait ça dégueulasse, mais au contraire, j'adore quand il y a des gens de tous les horizons qui se retrouvent, qui essayent de vivre ensemble, et effectivement c'est pas toujours facile. Il y a des petits sous-quartiers comme ça, la Butte aux Cailles, c'est très différent du quartier du Château des Rentiers, de Pâté-Tolbiac, de la Cité Fleurie. On dit le 13e, en fait, vous savez, c'est beaucoup plus
c'est plein de petits mondes. Mais vous avez le mauvais goût aux yeux de Léo Malais de ne pas rejeter en bloc toutes les tours qui sont construites dans ce quartier.
Ah oui, moi, j'avoue
je ne l'ai pas condamné aussi formellement. Hein.
Moi, je trouve que ça fait partie, c'est constitutif de notre paysage. Il se trouve qu'on doit vivre avec, que finalement, c'est pas toujours si mal qu'on veut le croire. Je veux dire, le côté passéiste à tout craint. On va finir par trouver la crasse d'autrefois pittoresque. C'était bien, on n'avait pas de chiottes, on n'avait pas l'eau courante. Merde, je veux dire, le confort, c'est pas mal aussi.
Il faut vivre
quand
avec
vous allez sur la dalle de la rue de Tolbiac, la dalle d'Olympiade, vous verrez qu'après tout, il s'y passe des tas de choses. Il y a des animations, les gens se regroupent. Bon, dernièrement, je suis allé voir, il y avait une expo des artistes du coin. Les gosses ont de la place pour jouer. C'est pas si mal que ça.
D'ailleurs,
Léo l'a admis, je l'ai traîné de force là-bas. Comment il a admis que c'était pas mal.
Il faut vivre avec votre temps. Faites un petit effort.
Mais non, moi je vis avec mes souvenirs. Moi je vis avec le pont de Tolbiac, avec la gitane, qui est morte à la fin, parce que vous avez remarqué, toutes mes bonnes femmes, elles meurent à la fin.
Oui, ça c'est pas gentil. Oui.
Mais Belita Morales n'est pas morte. Hein. Elle est morte dans le roman, mais dans la réalité, elle est toujours vivante.
Elle devrait être là aujourd'hui.
Ah non, non, elle n'est pas là.
Vous ne l'avez pas invitée?
Elle est sur la côte. Elle demeure très loin, et... mais je l'ai retrouvée.
Bon, nous avons tenu à faire entendre à ceux qui sont autour du car et à nos auditeurs un des aspects bien moins connus de vous, Léo Mallet, c'est-à-dire vos poèmes que vous avez écrits eh bien, en plein mouvement surréaliste. Alors, Léo Mallet, vous n'avez jamais cessé en fait ensuite d'être poète.
Merci.
Mais vous n'avez plus jamais écrit de poésie, mais parce que vous n'êtes pas pour le mélange des genres, c'est un peu ça?
Je ne sais pas, non, ça s'est fait... Non, un jour j'ai été incapable d'écrire des poèmes... Et alors, les critiques indulgents et bien intentionnés à mon égard ont dit que la poésie que je n'écrivais plus sous forme de poème était passée dans mes bouquins.
C'était glissé dans vos livres.
Voilà, c'est ça. Oui. Alors, c'est très flatteur, j'accepte ce jugement.
Alors, nous avons demandé à un comédien qui s'appelle Jean Lescaut eh bien, de nous lire un de vos poèmes.
Hurle à la vie. À la croisée des sexes, mon désir le plus vif. Anticiper et placer son époque derrière un faux air de bonhomie. Reposer. Tu te chargeras du spectacle des beautés naturelles quand je te le dirai. Jolie dame jamais infidèle, les parfaits amants viennent me remplacer en toute hâte. Ma situation leur plaisait, mauvaise fortune si mauvaise, cela fait trop de peine. Donner des tapes amicales sur la tête des serpents. Te serrer tout entière. La montagne est plus facile, je l'attends. Tête bronzée, tête préoccupée. Il me semble que je n'en suis pas sorti, et pourtant, prendre chaque jour vos deux seins est apprendre la mort nouvelle d'un être qui m'est cher. Pour les passants, nous sommes la partie de ce conte, avec revenant, la moitié d'une destinée, le tic-tac d'une pendule. Tête rouge, aux yeux clairs, grand volcan syllabique. Majesté, penchez-vous sur le raide vivant dans le couloir d'un bouge. Tu laisses courir l'imagination. La sincérité ne me quitte pas. Elle se lève et retombe sans jamais desserrer son étreinte. Comme un ciment dont la mission serait de pénétrer haut dans mon parc intérieur. Elle se lève et retombe. Tête blonde du pin, tête verte du ruisseau, tête rouge de l'ardeur, tête brune des sierras, orragée d'un pampero mental, tête à sang avec la vie, il y a désormais de fortes chances pour que je succombe sous la rafale donnant la tête la première contre le viaduc d'Auteuil. Le viaduc d'Auteuil tremble sous ma caresse. Vent debout, vent en poupe, vent couché, vent sur vous, fillettes des faubourgs. Que je vous aime, claires adolescentes de banlieue aux seins autoritaires, courte jupe en jeu de mes échecs, chemise du coureur de plaine. Cric, le besoin de hurler comme on pleure au souvenir des lourds platanes d'Aix, des rues étroites en trous de mort de grâce. Cric, et mes pensées de petits jours, interminables comme l'éclair. Mes réveils pénibles, sans fleurs, sans soleil, tandis qu'au vent bat le drap de l'angoisse, le drapeau de la reddition. Les mains couvertes de baisers, la trace des menottes. À toute heure, mes pensées de petits jours, mes rêves de décapités, mes rêves de crépusculaire aube. Le ciel pèse toujours plus lourd dans le cœur bas, toujours plus bas au sol en laisse, comme un bas ses cœurs qui aboie, cœur lourd et bas, mon ciel de neige. Neige, neige. Neige, neige bleutée de la Voulzie, neige aux souliers de Gaël-Patrick, neige du Moser, neige fondue en robe noire des tropiques, tu reviendras, plus belle que toutes les danseuses, neige qui met le cœur en berne, belle neige des almanachs. Thank you.
Léo Mallet, vous avez été un des poètes officiels du surréalisme.
Oui, poète officiel, enfin poète, d'ailleurs tous les membres du groupe surréaliste étaient poètes. Même ceux qui n'écrivaient pas de poèmes, qui faisaient de la peinture ou des objets.
Vous nous parlez un peu de cette époque ?
Bah, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous savez, on a publié quantité de livres sur le mouvement. Hein. Moi, je n'étais qu'un tout petit rouage.
Non, mais je crois que c'est intéressant de faire entendre aux jeunes générations qui vous découvrent aujourd'hui dans Nestor Burma que vous avez été aussi quelqu'un d'important.
Oui,
Il n'était pas né.
Oui, oui, mais ça peut peut-être me desservir auprès de certains lecteurs qui diront « Ah, ben c'est pour ça, dans ces romans, on n'y comprend rien, forcément, c'est un ancien surréaliste. Hein, » parce que c'est ça, quand les gens se trouvent en présence de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils disent « c'est surréaliste. »
Et vous avez envie aujourd'hui d'être compris du plus grand nombre ?
Ah oui, 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 oui. Ah oui, je suis un petit peu vaniteux, moi. Hein. Oui, oui, moi, il me faudrait, voyez, 500 000 lecteurs, 450 000, quoi.
Oui, mais par tirage, enfin, je veux dire, par réédition.
Ah oui, bien sûr.
Et vous en faites combien ? Pardon,
ah
chiffre.
Ben je ne sais pas. Au livre de poche, j'avais 80, 100 000 lecteurs.
Oh, vous surveillez un peu vos ventes ?
Non, non, non. Mais d'ailleurs, un auteur ne peut jamais surveiller ses ventes.
Il le regrette souvent. Comment est-ce que vous vous expliquez l'engouement de la jeune génération des 18-25 ans aujourd'hui pour, non seulement la bande dessinée, ça, on s'en est longuement expliqué, mais pour les aventures de Nestor Burma ?
Ah ben, je suis un cas un petit peu particulier. Je suis allé d'échec en échec jusqu'au succès final. Je crois que je suis un bénéficiaire de mai 68. Car c'est à partir de 70, lorsque mes bouquins ont été réédités dans le livre de poche. Évidemment, là, ils ont bénéficié d'une grande diffusion, ce qui n'était pas le cas pour l'édition originale. Et les jeunes gens qui avaient fait mai 68 m'ont découvert, ils se sont retrouvés en moi, mon côté anarchisant, un petit peu insolent, des choses comme ça. Ça a dû leur plaire.
Mais il n'y avait pas une sorte de malentendu politique ?
Si, peut-être, parce que je ne partage pas toutes les idées des 68 heures.
Ce qu'il faut dire, et ce qui est triste d'ailleurs d'une certaine façon, c'est que vous vous êtes toujours heurté à l'indifférence de votre génération à vous, à vos contemporains.
Oui, peut-être, oui. Oui. Ah, mais c'est bien d'être découvert par des jeunes gens et des jeunes filles.
Hein. Il y a une phrase que vous avez pour... vous faites sourire autour de nous, là.
Oui.
Il y a une phrase que vous avez peut-être pour raccourcir votre carrière et aussi votre vie, et que je trouve belle, et je pense qu'elle est toujours vraie. Vous m'avez dit, depuis 10 ans seulement, je fais 3 repas par jour.
Oui, oui. C'est-à-dire, théoriquement, parce que je continue à n'en faire que 2. Moi, je ne mange pas le matin.
Que faites-vous du 3e ? Rien ?
Mais non, non. Le matin, moi, je bois du café, je fume ma pipe, je délire un petit peu.
Oui.
Non, mais ça, c'est symbolique. Oui, il a fallu que j'attende le livre de poche et puis les éditions du Fleuve Noir avoir suffisamment de quoi faire les 3 repas par jour si j'avais eu envie de les faire.
Alors, ce qu'il veut dire que vous n'avez jamais vécu de la première parution de vos ouvrages, mais que vous vivez fort bien de la réédition de vos
livres.
Voilà,
c'est ça. C'est la preuve que pour devenir riche, mais vivre aisément, il faut surtout ne pas écrire.
Oui, enfin, il faut avoir écrit.
Il faut ne rien faire. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr.
Alain de Mouzon, la carrière de Léo Mallet, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Son œuvre de poète et de romancier. Est-ce que vous trouvez que la consécration est arrivée un peu tard pour lui ?
Je ne suis pas du tout un spécialiste de la géographie.
Et de la gérontologie.
Mais comment est-ce que.
De Léo Mallet, je veux dire, bon. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout disséqué, j'ai pas analysé, j'ai pas fait des fiches, j'ai pas enregistré des bandes sur Léo Mallet. Il y en a qui l'ont fait. Michel Lebrun, on attend toujours ses entretiens avec Léo.
Non, mais 30 ans d'indifférence de la part à la fois de lecteur et de la critique.
Ah, ben c'est la transposition du fameux mélodrame, 30 ans
oui,
dans
enfin,
un mur.
Oui, enfin, je pense que Léo exagère un petit peu. Ses livres ont toujours été quelque part, ils ont toujours circulé. Moi, je me souviens avoir lu... Brouillard au pont de Tolbiac vers la fin des années 60, début 70, donc ça se trouvait, c'était pas facile, c'est vrai. Il y a eu des creux entre les rééditions de poche, les reprises maintenant par le Fleuve Noir, il y a eu des creux, mais ça se trouvait, il y a toujours eu un... je veux dire, un noyau, je pense, d'admirateurs, de fanatiques de Léo Malès. Ce n'était que justice que des rééditions plus copieuses se fassent. Et on comprend très bien que le succès arrive plus fortement maintenant. Mais moi, bon, c'est peut-être pas forcément agréable pour Léo, ce que je veux dire, mais je crois que ce qui fait que ça marche très très fort, c'est que ça, ce qu'il nous raconte a eu lieu il y a 20 ou 30 ans, ou même avant, et cela arrive à une époque où tout le monde est soucieux de, enfin on appelle ça le rétro, mais soucieux de retrouver des racines, de retrouver du passé, de se confronter à ce qu'il y a eu autrefois, de dire comment je vis, qu'en est-il, est-ce que, etc. Bon. Et moi, je sais que ça m'a frappé avec Léo. On a fait plusieurs séances de signature et des rencontres dans les bibliothèques, d'ailleurs dans les librairies, et dans le quartier. C'est l'espèce d'engouement qu'il y a autour des Léo Malais pour son Brouillard au pont de Tolbiac, qui est mitigé d'une certaine indifférence pour Château des Rentiers, que je viens de faire. Parce que les gens, le présent, ils n'en ont rien à foutre, finalement. Ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires du passé.
Bon, vous pensez que vous aurez davantage de lecteurs dans quelques années qu'aujourd'hui ?
C'est pas impossible.
Vous laissez
enfin, en tout cas, au moins pour cet aspect de livre qui se construit autour d'un quartier, d'une époque et d'un moment.
Vous cédez l'engouement provisoirement à Léo Malais, ce qui n'est que justice.
Oui. Enfin, bon, je veux dire, on a chacun notre place, notre dimension... Bon, moi, je vis quand même de ma plume, donc je veux pas larmoyer en disant...
C'est votre 13e roman ?
Oui.
Oui. Et vous avez 35 ans.
13e roman, et dans le 13e arrondissement, et la bande dessinée de Tardy, ce qui se passe dans le 13e arrondissement aussi, c'est son 13e album.
Oui, vous portez chance, alors.
Oui, peut-être, oui.
Et Léo Malais, si l'on imaginait une histoire qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous seriez, vous, capable de l'écrire ou est-ce que vous laisseriez la plume à Dumouzan ?
Écoutez, cela fait une dizaine d'années que tout le monde me dit « Vous devriez écrire, tu devrais écrire. » Et ça, c'est le genre de conseil que je ne suivrai pas.
Oui, et pourquoi ?
Parce que je n'ai pas du tout envie d'écrire. Quand on peut vivre avec ses rééditions, pourquoi... On s'emmerderait à écrire des inédits.
Mais il n'y a pas une jolie histoire d'aujourd'hui qui
non.
vous intéresse ?
Non, puis l'inspiration. Je n'ai plus d'inspiration, il faudrait un phénomène. Remarquez, peut-être que ça peut me venir, je ne sais pas. Ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé de la secrétaire de Nestor Burma, mais elle ne joue pas beaucoup de rôle dans la fameuse Hélène dans Brouillard au pont de Tolbiac, mais ce sera pour une autre fois.
Non,
on fera une émission spéciale.
On va en dire un mot parce qu'elle vous intrigue beaucoup.
Elle intrigue tout le monde.
Oui, mais vous le premier. Vous le premier.
Ah, mais moi je
parce
connais.
Elle a pris des proportions
oui.
que vous n'imaginez
pas.
Ah
oui. D'abord, au début, c'était quelqu'un qui n'existait pas et petit à petit, elle s'est transformée en quelqu'un qui existait. En quelques-unes qui existaient, car tous mes personnages sont composites.
Donc vous avez beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle est un peu plus forte que votre plume et que votre imagination.
Vous croyez ?
Ça serait la seule.
Oui. Alors. Mais d'ailleurs, il y a une part d'Hélène dans Benita Morales aussi.
Oui. Oui, eh bien écoutez, un autre de vos poèmes, Léo Malais ? Vous êtes d'accord ?
Ah bah écoutez, bien sûr, je ne suis pas... Vous savez, j'étais très ami avec Salvador Dali, alors la publicité ne me fait pas peur.
C'est que je veux dire que ce sont des poèmes que vous avez choisis pour nous.
Ah oui, mais j'ai trouvé que tout à l'heure c'était un peu long, non ?
Ah bon ?
Ouais.
Bon, on va en mettre qu'un petit bout.
Ah mais j'ai été très heureux de l'entendre.
Bon d'accord, alors si on a un poème court de Léo Malais, parce qu'il n'aime pas quand c'est trop long, il s'ennuie.
Bah, c'est pour ne pas lasser l'auditeur. Vous savez, les poèmes, l'auditeur... Hein.
Ne pas voir plus loin que le bout de son sexe. Comme la marque du bourreau, comme un accident sur la route, votre image est collée dans le fond de l'oubliette cerveau. Mille et mille images. L'image de la femme immobile, errante, l'enfant de 18 mois étreint par l'effroyable oui qui coule de ta bouche. Pour la beauté de ton buste rebelle, je ferai de toi un homme. Prends ce revolver, ce chef-d'œuvre de mécanique, mes rêves de brutalité. Voyez, poliment mon sexe tel un chapeau se soulève devant vous. Ta nuque nocturne fait de chacun de nous un brouillard. Les sourcils et les paupières de la femme font croire à l'eau de mer. Laisse-moi accueillir sur vos lèvres cette bombe exquise. Tes yeux dynamiteurs changent le monde. Connaître la douceur extraordinaire de vous poudrer dans un gouffre ravissant. Une belle poitrine attire. Une belle poitrine retient. Que de tendres soins elle réclame de ma main brillante qui ne pique pas. Nul n'a passé les pointes de tes seins sans peur ni sans malheur. Votre cou est violemment frappé d'amour. Sur vos lèvres vivantes, la gamme des larmes noires des membres rend la vie en 5 minutes, oui. Vous serez surprise d'une balle, de la cuisse aux cheveux, de la jambe à l'oreille d'un bois. Maigrir ou ne pas maigrir, vos jambes souples et soyeuses, croisées à des hauteurs mortelles, tes bottes de velours, ah ! Le poète à ce moment pousse un cri, un grand cri déchirant, humain. C'est un bateau naufragé. Et lui gifle le visage, le drapeau noir de détresse, le drapeau de la cécité, la culotte de soie vient de l'atteindre à la ligne de flottaison. Il se retrouve dans une rue passante, dans la bouche, une délicate odeur de peau, distribuant aux femmes la table des matières de sa vie, la liste plus ou moins complète de ses crimes. Debout, les jambes légèrement écartées, debout, les mains aux hanches, accroupi, couché sur le dos, les jambes tendues et écartées, étendu sur le ventre, étendu sur le dos, les bras en arrière, les cuisses sur le bassin. Il s'agit d'un suicide unanimement accepté.
Celui-là vous a plu, Léo Mallet, ça n'était pas trop long. Il est superbe.
Il vous plaît ?
Absolument. Rendez-vous.
C'est mon prospectus publicitaire.
Rendez-vous pris pour une autre émission avec la secrétaire de Nestor Burma, c'est promis. Bonne fin de journée à tous. Dans un instant, eh bien, retour à notre studio parisien où Françoise Benetra nous donnera les principaux rendez-vous du programme de demain. Eh bien, quant à nous, nous allons descendre avec regret de la butte aux cailles et raccompagner aux portes du 13e arrondissement Léo Mallet et vous recommander, eh bien, sans plus tarder, la lecture du brouillard au pont de Tolbiac de Mallet et du château des Rentiers de Demouzon. Nous tenons à votre disposition une bibliographie des œuvres de Léo Mallet. Demandez-la en écrivant au matinée du mois d'août. C'est la pièce 8716 à la maison de Radio France à Paris dans le 16e arrondissement. Merci aux habitants du quartier qui sont venus nombreux entourer le quart de France Culture. Sylvie Andreux, André Mathieu, Jean-Paul Beaujolais et Daniel Burguez. Eh bien, vous retrouve demain, toujours entre 10h et 11h, pour une émission en direct et publique dans un tout autre lieu, le Front de Seine. Débat avec les habitants de ce nouveau quartier et les architectes. Non, Léo Mallet, vous n'y serez pas, c'est promis. À demain.
Heureusement.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Ah, la charmante chose qui tire pimorose pour Paris. Paris, jolie. Paris.